Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast. On se retrouve pour un nouvel épisode de Réseau à la une. Pour rappel, ce podcast décrypte le diagnostic des enseignes en franchise que la rédaction a analysé dans son mensuel, diffusé sur tout le territoire national chez les marchands de presse. Je suis Valentine Puot, journaliste à l'officiel de la franchise et avec moi, comme toujours, Sylvain Bartholomew, dirigeant et associé du cabinet Franchise Management pour décrypter ces dossiers. Bonjour Sylvain.
Bonjour Valentine.
Merci d'être avec nous pour nous partager votre expertise.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast.
Alors, le principe du podcast, pour ceux qui nous rejoignent ou n'en connaissent pas la visée, c'est s'entourer tous les mois du cabinet Franchise Management pour passer le DIP d'un réseau de franchise à la loupe. Dans notre magazine, déjà, après qu'une enseigne nous ait confié l'ensemble de ses documents juridiques, puis pour en débattre dans ce podcast. Comment ça se passe? C'est très simple. Ces documents, le cabinet les analyse avant de nous remettre une notation. Sylvain, vous et vos équipes nous remettez alors un indice de performance du réseau qui sert à mesurer et à apprécier le niveau de maîtrise du métier de franchiseur et la clarté ou non des infos qui figurent dans ce DIP à l'attention de ses futurs partenaires. À chaque fois, 50 points de contrôle sur la partie juridique qu'on vous détaille dans un instant. Aujourd'hui donc, zoom sur l'enseigne 3 Brasseurs qui propose un concept de microbrasserie et de restauration à table et avec nous, pour en parler, Jonathan Habib, son directeur général opérationnel. Bonjour Jonathan.
Bonjour Valentine.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous pour l'invitation.
On échange tout de suite sur votre DIP et la notation qui vous a été accordée au mois de novembre. Alors Sylvain, quelle note votre cabinet a accordée au réseau et pourquoi?
Alors on a une moyenne globale sur le DIP et le contrat de 83%, ce qui est proche de l'excellence, il faut le dire comme ça, avec un DIP qui est à 82% et un contrat qui est à 84%. Je pense qu'on est parmi les meilleures notations qu'on a sur cette rubrique, si ce n'est pas la meilleure.
Effectivement, la note est très bonne. Simplement, dans votre analyse, Sylvain, vous mentionnez donc quelques atouts, on va le rappeler. Un concept porteur avec un produit d'appel qui est la bière, un DIP très pédagogique et une force logistique en matière d'approvisionnement. En revanche, comme un DIP ne peut pas être parfait, vous avez souligné toutefois l'absence de quelques tendances générales de marché pour l'année écoulée, mais aussi par rapport aux prévisions de 2024. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait déjà dire sur ce point et peut-être permettre aux candidats de se projeter un peu plus sur ce marché?
Ce qui est important de dire sur le DIP, c'est que le DIP a une valeur juridique, évidemment, mais il a aussi une valeur pédagogique. L'intérêt du DIP, c'est de permettre à un candidat de s'engager en toute connaissance de cause, en comprenant l'histoire de l'enseigne, en comprenant son développement, en comprenant aussi les composantes clés du concept, et puis comment je vais pouvoir réussir à m'exprimer en tant que chef d'entreprise avec ce concept de franchise. Sur le DIP Les 3 Brasseurs, on a réellement un DIP à vocation pédagogique. Il permet de comprendre le concept, ses composantes, l'histoire de l'enseigne, les forces dans son développement, les clés pour pouvoir réussir son projet d'entreprise. Évidemment, le monde change, la conjoncture évolue, l'entreprise en elle-même évolue, et c'est là où l'enjeu de la mise à jour du DIP est essentiel. Donc c'est vrai qu'on a un DIP qui est presque parfait. Il est à 82% pour des raisons essentielles qui sont de mise à jour, de données sur le concept, de données sur le marché. Mais évidemment, le temps évolue et les recommandations qu'on donne aux enseignes, c'est de refaire un check-up du DIP une fois par an pour veiller qu'on est bien à jour de l'histoire, des évolutions, etc. Mais on sait aussi que parfois le temps peut être très court, que les développements s'enchaînent, que les animations s'enchaînent et qu'à un moment donné, on peut se retrouver un peu en retard au moment de mettre à jour le DIP. Donc, on est presque parfait. Voilà, on a frôlé le strike. On est au spar, si on fait référence au bowling.
Alors, Jonathan, je vous propose de réagir à ces éléments et de nous dire aussi, pour commencer, comment se porte l'enseigne depuis la parution. Est-ce que vous avez ouvert des nouvelles franchises entre-temps, ou bien est-ce que votre parc comporte toujours 54 unités, comme vous nous l'aviez annoncé lors de la parution?
Alors effectivement, franchise 54 unités, au total 75 aujourd'hui. La dernière ouverture, c'est Marc-en-Barœul au mois de décembre. Et là, nous sommes donc sur la lancée que nous avions évoquée, entre 8 et 10 ouvertures, 10 ouvertures cette année. La première sera au Bagne au mois de juillet et s'en suivra après, bien évidemment, plusieurs ouvertures en France métropolitaine. L'enseigne se porte bien. On a fait une très belle fin d'année, un très beau mois de décembre avec une progression de chiffre d'affaires, que ce soit sur le réseau franchisé et même le réseau succursale. Le début d'année est un peu plus complexe. J'avoue que le mois de janvier est un peu décevant, mais c'est, je pense, aussi lié au contexte qu'on a pu avoir avec les différentes manifestations. On est assez confiant cette année, même si on constate toujours une baisse hein, de la consommation de bière en France. Vous le suivez aussi à travers l'actualité. Il y a beaucoup de le monde brassicole est pas mal bousculé en ce moment. Beaucoup de microbrasseries qui ferment. D'où l'avantage aussi nous d'avoir cette double casquette, d'être des brasseurs restaurateurs et d'avoir donc des vrais lieux de vie où on peut retrouver effectivement tout cet univers. De brassage de bière, de création de recettes hein, en venant de se restaurer. Donc c'est un petit peu la force du concept, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait aussi s'appuyer sur la restauration pour mettre en avant le savoir-faire brassicole français. Donc nous sommes très confiants et puis nous sommes aussi satisfaits des résultats au Canada, puisque vous le savez, nous sommes implantés à l'international, au Brésil et au Canada, et les résultats sont plutôt satisfaisants aussi outre-Atlantique.
D'accord. Alors Sylvain, vous avez aussi souligné le fait que les clauses du franchiseur sur le partage des valeurs étaient trop générales. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire pour les néophytes de la franchise ?
Alors ce qu'il faut dire, oui c'est sur la partie contrat, ce qu'il faut dire c'est que toujours quand on relit le contrat, c'est essayer de comprendre la précision en fait de ce qui est dit, étant entendu qu'on n'a pas accès, quand on regarde le contrat, au manuel de savoir-faire. Donc souvent, les précisions, on les retrouve dans les manuels de savoir-faire. Pour autant, on a quelques petites clauses qu'on a précisées dans le commentaire qui mériteraient d'être un peu plus précises, moins généralistes. Mais globalement, le contrat est à 84%. Et ce qu'on a surtout relevé, c'est qu'il est quand même très équilibré. On a tendance, Valentine le sait aussi bien que moi, à se retrouver parfois face à des contrats où les engagements du franchisé sont plus importants que les engagements du franchiseur. Là, on a quand même un équilibre global entre les intérêts du franchiseur, les engagements que doit prendre le franchiseur pour que le contrat se passe bien, et les réciprocités, c'est-à-dire les engagements que doit prendre le franchisé pour que le contrat se passe bien. Donc, ce qu'on note surtout, c'est qu'on a un contrat qui est globalement équilibré, donc avec un équilibre global. Quelques clauses qui sont parfois un petit peu génériques, qui mériteraient d'être un peu plus précisées, pour que le franchisé, en fait, comprenne bien aussi ce que ça signifie. Ça, c'est un point qui est important, en fait, sur les contrats. Ne jamais oublier que, la plupart des cas, on a des franchisés qui sont néophytes, qui ne comprennent pas forcément ce qu'est la franchise. Donc, il y a un devoir d'être parfois un peu plus précis, de ne pas rester sur nos propres connaissances de franchiseurs, hein, sur les clauses, mais de faire preuve d'un peu plus de pédagogie, d'explication, pour que le franchisé sache interpréter concrètement ce que ça veut dire, en fait, dans son quotidien. Voilà. Donc, c'est des petits points de détail, mais encore une fois, on note un contrat à 84% qui est parmi les meilleures évaluations qu'on a sur cette rubrique.
Alors Jonathan, je vous propose de réagir sur ce point. Quelle était un petit peu votre intention initiale ?
Ben, c'est toujours, en fait, nous on a pour objectif d'être transparent avec les candidats à la franchise, puisque comme le précisait l'interview précédente, effectivement, c'est des investissements assez importants. On sait aussi que certains partenaires mettent les économies d'une vie pour faire un 3 brasseurs. Donc on estime qu'on se doit effectivement d'être transparent sur la performance du concept, sur l'histoire aussi. Parce que l'histoire aussi est importante. Il y a une vraie histoire chez Trois Brasseurs, puisque ça fait quand même maintenant plus d'une trentaine d'années qu'on franchise. Et on souhaite aussi être transparent sur le mode de fonctionnement parce que c'est important aussi. Nous, il faut savoir que c'est un réseau où on fait énormément participer les franchisés, même sur le run, à travers des comités marketing, des comités produits, des comités d'enseigne. Et en fait, le franchisé, lorsqu'il s'engage avec nous, au-delà du business, il y a aussi, je dirais, un engagement à s'engager sur la vie du réseau. Donc c'est aussi important et je pense que c'est ce qui fait aussi la force et le succès de l'enseigne aujourd'hui. Vous voyez, plus tard qu'hier, on est en commission produit avec nos partenaires. On est challengé, mais dans le bon sens, parce qu'effectivement, nous, en tant que franchiseur, on se doit d'apporter un savoir-faire, mais on attend aussi les franchisés pour rester dans la performance, de nous challenger pour être encore meilleurs demain. C'est important aussi dans le DIP que ce soit précisé. On veut qu'ils soient acteurs aussi du succès de l'entreprise.
Sylvain, vous avez aussi souligné un dernier point, la liberté du franchisé qu'il faudrait assouplir sur certains points. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Alors, plus que liberté, c'est un sujet d'explication et de pédagogie. C'est vrai que sur certains points, par exemple dans le contrat, on parle d'agrément par le franchiseur du recrutement du responsable d'exploitation. Ça peut paraître en fait pour un franchisé comme un manque de liberté. C'est-à-dire, je suis chef d'entreprise indépendant et puis en fait le franchiseur agrée mon responsable d'exploitation. La question en fait, plus que la liberté, c'est pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on est dans un concept où l'accueil, la retranscription en fait des valeurs de la marque sont certainement essentielles à la satisfaction client. Et c'est vrai que quand on lit la clause du point de vue, encore une fois, quand on regarde nous les contrats et les DIP, on se place du point de vue d'un candidat. On se dit mais pourquoi en fait cette clause est là? Pourquoi elle est si importante? Par contre, quand on comprend le concept, quand on le vit un peu, quand on s'y intéresse, on peut comprendre le sens et l'intérêt du franchiseur d'avoir placé en fait ces restrictions, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, même si le mot est très fort, à ce moment donné. On sait que dans la restauration assise et dans la restauration à thème, l'expérience client, l'expérience consommateur, la retranscription fidèle est fondamentale. Et dans un métier où parfois le franchisé n'est pas présent, celui qui va être le gage de cette retranscription, c'est le responsable d'exploitation. Donc c'est vrai que vu du point de vue d'un franchisé, ça pourrait être considéré comme un manque de liberté, mais vu du point de vue du franchiseur, c'est nécessaire pour que le savoir-faire soit bien opéré. Et finalement, quand on pense au concept, on se dit, il faut peut-être l'expliquer au candidat à la franchise, pour qu'il comprenne l'intérêt et l'importance de cet agrément.
Alors, ce podcast touche à sa fin, mais d'abord, messieurs, le mot de la fin. Jonathan, un petit mot pour répondre à Sylvain. Est-ce que vous voulez aussi en profiter pour nous partager les perspectives du réseau pour l'année à venir ou peut-être des modifications que vous ferez sur votre contrat plus tard?
Alors, il faut savoir qu'on a été récemment audité, on le fait environ une fois tous les 3 ans, puisqu'on a décidé l'année dernière d'accélérer fort sur le développement en franchise. Jusqu'à 2019, je rappelle qu'on était à 50-50, réseau succursal et réseau franchise. Là, il y a une volonté affirmée de Trois Brasseurs de devenir, je dirais aujourd'hui, à 80% un réseau de franchise, d'où la nécessité de réaliser un audit aussi pour faire un état des lieux de notre métier de franchiseur. Donc, cet audit est terminé. Ça va nous permettre aussi de muscler notre animation de réseau parce qu'il a été relevé quelques aussi points d'amélioration sur l'animation de réseau. Et on se rend compte aussi que l'animation de réseau, pardon, la notion de proximité avec nos partenaires nous permettra aussi d'assurer un développement plus serein. Et la deuxième, je dirais, grande perspective, c'est aussi de faire de Trois Brasseurs une marque à proprement parler, avec des gros projets sur la vente de bière hors restaurant. Donc, on réfléchit effectivement aussi à tout un schéma de production pour pouvoir produire nos recettes exclusives et les diffuser à travers notre réseau de distribution. On n'a pas encore les idées claires. Ça sera certainement un réseau de cavistes. Bien entendu, nos restaurants franchisés et compagnies qui pourront bénéficier d'une cave Trois Brasseurs. Donc, il y a des gros projets aussi actuellement à l'étude pour pouvoir renforcer la marque et avoir, je dirais, aussi un nouveau marché à travers la bière, que ce soit en canette ou en bouteille, ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui.
D'accord. Eh bien, voilà qui donne envie. Merci à tous les deux pour ce moment d'échange et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode pour décrypter d'autres enseignes de l'écosystème. Et en attendant, tous nos podcasts sont à retrouver sur la plateforme CDI Podcast, sans oublier les plateformes de streaming. À bientôt et puisqu'on parle de bière, santé!
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.